En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je fais court parce que je voudrais qu'on finisse l'entraînement de l'esprit. Vous allez voir, ça va assez vite. Et puis après, on passera aux choses sérieuses, le buffet, les boissons, tout ça. Vous allez voir que donc la suite, donc le sixième et septième point, c'est des conseils pratiques. L'entraînement de l'esprit, ça vise à faire diminuer l'égoïsme. Et donc, du coup, ces conseils, ils sont là pour nous permettre de voir quand est-ce qu'on dérive. Donc, parfois, il n'y a pas besoin de commentaires. Ça va, vous allez voir, ça va assez vite. Je vais les énumérer. Et puis, s'il y a besoin, vous m'arrêtez. J'aime bien, c'est une petite fiche que m'a fait Sonam, je sais pas si vous l'avez déjà rencontré, qui est au centre, qui a vécu au centre il y a quelques mois. Et du coup, elle m'a fait un truc vachement bien. C'est-à-dire pour chaque précepte, donc elle m'a mis le précepte, et puis ensuite elle m'a mis deux ou trois commentaires de maîtres différents. C'est intéressant d'avoir. Mais ça se résume par une phrase. Et donc du coup, bah, parfois, je peux avoir plusieurs approches et c'est très intéressant. Alors, le premier précepte, c'est travailler toujours sur les trois principes. Les trois principes, c'est garder ses vœux. Quand on a pris des vœux, bah, faut s'y tenir. Les vœux qu'on prend, le minimum, c'est les vœux de refuge. C'est-à-dire, toute personne qui se dit pratiquant bouddhiste a pris les vœux de refuge. Prendre refuge en le Bouddha, le Dharma, la Sangha, c'est vraiment le minimum syndical. Ensuite, il y a ceux qui prennent aussi les cinq préceptes. Alors, il y a les cinq préceptes de laïc et les cinq préceptes de moine ou pasika. Et puis, pour nous, ce qui est surtout très important, c'est les vœux de Bodhisattva. Les vœux de Bodhisattva, c'est vraiment ça ce qui nous concerne tous. C'est l'éveil. Puissais-je réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres? Fait le souhait que tous les êtres soient libérés de la souffrance, obtiennent le bonheur. Et on dit ce qui brise les vœux de Bodhisattva, c'est que dans notre compassion, on en exclut ne serait-ce qu'un seul. Si on exclut de notre compassion ne serait-ce qu'un seul être, ça brise les vœux de Bodhisattva. Alors c'est pas. Ça montre que c'est exigeant. Et le fait de se décourager aussi brise les vœux de Bodhisattva. On n'a pas le droit de se décourager quand on est dans cette voie-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que. On doit cultiver de la compassion envers tous sans exception, y compris les personnes qui accomplissent des actes négatifs. Précisément ces personnes-là. Parce qu'on doit comprendre que si elles accomplissent des actes négatifs, c'est parce qu'elles souffrent. Donc elles ont d'autant besoin de compassion. Et en plus, elles plantent les graines pour des souffrances pires à venir. C'est pour ça qu'on se doit d'englober aussi ces personnes-là dans la compassion. La compassion, ça ne veut pas dire être gentil. La compassion, ça ne veut pas dire cautionner les tels ou tels actes. Pas dire qu'on cautionne. La compassion, c'est je souhaite que l'autre se libère de la souffrance. Je souhaite qu'un jour, il puisse se libérer de la souffrance.
Si c'est pas aujourd'hui, si aujourd'hui on n'arrive pas à se trouver, on n'a pas les moyens d'aider cette personne, peut-être ça peut inclure le fait de mettre une distance avec les personnes avec qui c'est difficile. Mais une distance, ça ne veut pas dire couper. C'est je prends du recul parce qu'aujourd'hui ça marche pas. Pour un jour qu'on puisse se retrouver avec des meilleures conditions, etc. et que on puisse s'aider. Mais voilà, faut garder ça à l'esprit, quoi. On doit développer de la compassion envers tous les êtres, sans exception, et ne pas en exclure un seul. Ensuite, dans les trois principes, éviter les actes outranciers, éviter d'être exubérant. Ça, c'est pour nous rappeler que dans la voie bouddhiste, il y a parfois des exemples de personnes qui ont réalisé l'éveil et pour qui l'éveil prend une forme très exubérante, très anticonventionnelle. La folle sagesse, gens comme ça, qui parce qu'ils ont dépassé la peur, ils sont au-delà de la peur, au-delà des conventions, alors ils ont un comportement qui est complètement, qui bouscule, qui choque leurs contemporains. Précisément parce que l'éveil ne s'embarrasse pas de est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire. Mais par contre, on nous met en garde d'avoir ce genre d'attitude si on n'a pas réalisé, si on n'a pas une réalisation derrière. C'est-à-dire jouer au yogi, jouer, voilà, je suis au-delà de tout ça, je suis au-delà des concepts, au-delà des conversions, des conventions, etc. Et puis jouer, voilà, au yogi, ça c'est pas pour nous. On se doit au contraire, tant qu'on est en chemin, de connaître les conventions sociales, culturelles, religieuses, des lieux dans lequel on vit, des lieux dans lesquels on se rend, de façon à ne pas avoir une attitude qui pourrait blesser, qui pourrait choquer, voilà, alors qu'on n'a pas la, voilà, prétendre une réalisation qu'on n'a pas. Et enfin, cultiver la patience, la patience impartiale. La patience partiale, ça serait par exemple d'être patient envers nos amis, nos proches, et puis on l'est pas envers ceux qui nous causent du tort. Ou alors on est patient envers nos amis et les gens qui nous causent du tort, mais on n'est pas patient envers les circonstances difficiles, la maladie, les difficultés, etc. Voilà, dans la pratique de l'entraînement de l'esprit, on pratique la patience en toutes circonstances, impartiale. Second précepte, change d'attitude, mais reste naturel. Change d'attitude, ça se réfère à l'entraînement de l'esprit. C'est-à-dire, on travaille sur le fait de devenir moins égoïste. Et en même temps, reste naturel, c'est-à-dire, ça doit se. Voilà, on ne doit pas le faire de manière ostentatoire. Voilà, je suis quelqu'un qui pratique l'entraînement de l'esprit. Ben voilà, en fait, ça ne devrait pas se voir. On dit au contraire, quelqu'un qui est. Plus on est habile à travailler sur notre esprit, à travailler sur l'égoïsme, à se consacrer aux autres, moins ça devrait se voir, en fait. C'est quelque chose qui devrait rester discret. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Il n'y a pas besoin, voilà, de le crier sur les toits que voilà, je pratique la vertu. Non, non, au contraire. On reste très simple, très naturel. Et on dit même que nos proches ne devraient même pas s'en apercevoir. C'est-à-dire, ça ne devrait pas être quelque chose de. On sonne les cloches, quoi. Attention, quoi, je pratique la compassion. Non, non, ça ne devrait pas se voir outre mesure. Nos proches ne devraient pas avoir en face d'eux quelqu'un de complètement différent. Au contraire, ils devraient s'y retrouver. C'est des petites graines qui se fondent et puis on plante des petites graines très discrètes. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça porte ses fruits. On ne fait pas la morale, par exemple. Ne parle pas des défaillances. Quand quelqu'un a un handicap, quand quelqu'un a des défauts, quand quelqu'un a un truc, il ne faut pas se moquer, faut pas en rire, faut pas le souligner, faut pas en parler. Ça n'aide personne, ça n'aide pas la personne, ça n'aide pas nous-mêmes. Bon bah ben voilà, ça c'est pas, y a pas besoin de s'éterniser sur là-dessus, on le sait, mais c'est un précepte qui est difficile. C'est-à-dire c'est très très vite fait de se joindre à la critique, de se joindre, même si c'est derrière une petite blague, une mauvaise blague, On a vite fait d'y participer, oh c'est rien, c'est bon. Mais n'empêche, se mettre à la place de l'autre qui l'écoute, si c'était nous qui entendions cette critique, voilà, est-ce qu'on ne serait pas blessé? On peut, ça, voilà, les paroles, ça, on peut faire beaucoup de mal avec la parole, donc voilà, ça nous met en garde contre ça. Et ça va très très vite, hein. Et puis en plus, on aime ça. Et critiquer, parfois il y a un appétit un peu pour ça, pour aller souligner ce qui va de travers chez l'autre, parce qu'on sait que ça va faire mouche. On balance ça dans le contexte professionnel, on sait qu'on va avoir l'attention des autres. Et puis en plus, bon, c'est pas pour être méchant, mais franchement, lui. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Enfin, voilà. Mais on a quand même balancé le. Voilà, la petite bombe. Mais bon, non, mais c'est. Non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Oui, mais on l'a quand même dit. Voilà. Donc voilà, faut faire attention à ça. Alors ensuite, le précepte suivant, il va quand même un peu plus loin. Il est même encore plus exigeant. C'est ne pense rien d'autrui. C'est-à-dire, on ne doit pas s'apesantir sur les défauts des autres, ruminer les défauts des autres qu'on voit. Parce que si on appuie dessus, si on laisse ça occuper nos pensées, bah, finalement, on ne voit que ça chez l'autre, ce qui ne va pas. Et donc, du coup, on a qu'une vision partielle de l'autre. Ça peut très vite prendre toute la place, en fait. Quand on voit quelque chose de négatif chez l'autre et qu'on y pense, eh ben, au bout d'un moment, on ne voit que ça. C'est très rapide. Donc du coup, on nous invite au contraire à compenser en insistant sur ce qu'on voit de bien chez la personne, en considérant ce qu'elle fait de bien, les qualités qu'elle a, etc. Le Dalai Lama, en fait, il dit dans la pratique spirituelle, on devrait prendre que ce dont on a besoin. Si il y a quelque chose qui nous inspire chez quelqu'un, une qualité, eh ben voilà, on prend. Si on n'en voit pas, et qu'on voit des défauts, bah, ça n'a rien d'appuyer là-dessus, ça ne nous sert pas, bah, on s'en occupe plus. Voilà, on évite de trop appuyer là-dessus. Travaille d'abord sur tes négativités prédominantes. Voilà, dans la pratique, on va insister sur les facteurs perturbateurs qui sont dominants chez nous. On les reconnaît et puis c'est là qu'on concentre notre pratique. Abandonne tout espoir de résultat. Alors ça, c'est important. Abandonne tout espoir de résultat. On pratique dans l'ojong, on met l'accent sur les autres. Travailler pour les autres. Faire en sorte qu'ils aillent mieux. Faire en sorte qu'ils souffrent moins. Mais on le fait à un point, c'est tout. On n'attend pas de résultats. On n'attend pas de savoir si ça marche. On en parlait avec la pratique de Tonglen. Effectivement, dans la pratique de Tonglen, eh ben, on souhaite profondément que telle ou telle personne, on prend ses souffrances et qu'elle en est libérée. Parfois, ça peut même être un proche qui vit la maladie. Ben, on imagine qu'avec la pratique de Tonglen, on prend sur nous sa maladie et qu'elle en est libérée. Et c'est vrai que dans la pratique, on doit se dire, au moment où on l'a fait, on doit acquérir la conviction qu'à l'instant même, ça a marché. On ne se demande pas si est-ce que ça va marcher, on ne va pas essayer de le vérifier. Dans la méditation, on se dit, ça a marché. On acquiert la conviction qu'on l'a pris. Au moment où on pense à cette personne-là, que tout son karma négatif a été purifié, nettoyé, toutes ses anxiétés, tous ses problèmes, toutes ses maladies, etc. Mais ensuite, la démarche, c'est pas d'aller vérifier est-ce que ça a bien marché. Il a appelé, bon, c'est bon, t'as plus de boutons. Et puis, voilà. Parce qu'en fait, si on fait ça, le problème, c'est qu'on risque d'être découragé. C'est que si on attend des résultats de notre pratique, quelque chose d'évident, quelque chose de visible, le problème, c'est qu'on risque d'être découragé. C'est l'histoire de Chenrezig. Chenrezig, donc la petite histoire, la géographie de Chenrezig, c'est Chenrezig œuvre pendant des kalpas pour les êtres. Et puis un jour, il se dit, bon, ça fait un petit moment que j'ai bossé, je vais me retourner et voir ce qu'il en est. Est-ce que j'ai eu des résultats? Et puis il voit qu'il y a toujours autant de souffrance dans le samsara. Et donc il a un moment d'abattement à ce moment-là. Il se décourage. Et conformément à ses vœux de Bodhisattva, il se brise en mille morceaux. Parce qu'il y a une interruption à ce moment-là. Le découragement interrompt l'activité. Si j'attends un résultat, je suis déçu, donc je baisse les bras. Bah, le moment, la fraction de seconde où je baisse les bras, bah, je suis plus en activité. Et donc, on dit dans l'histoire, papa Amitabha, dans la famille du lotus, le père c'est Amitabha, le fils c'est Chenrezig, papa Amitabha rassemble les morceaux. Et là, Chenrezig comprend que c'est son découragement qui a mis un frein à son activité. Et en rassemblant les morceaux, il devient Chenrezig à mille bras. Et donc, mille fois plus de. Avec cette compréhension, il a mille fois plus de moyens. Voilà, c'est une activité qui ne connaît pas d'obstacles. Voilà, il est important ce précepte-là, parce que c'est vrai que quand on pratique Tonglen, quand on pratique pour le bien-être, on aimerait bien voir quelque chose de tangible. Est-ce que ça marche, quoi? Est-ce que ça sert à quelque chose? Voilà, bah, on nous invite à laisser tomber cette attente-là. Si elle a la souffrance, même pour un seul être, eh ben, ça en vaut la peine. Peu importe que ça marche à long terme, peu importe si j'en vois les résultats dans cette vie ou pas, par la force de l'interdépendance, si on a ne serait-ce qu'une pensée positive pour un seul être, ça a un impact. On ne sait pas à quel niveau, on n'est peut-être pas à même de le savoir, mais ça en vaut la peine. Ne garde pas de rancune. Alors ça aussi, c'est pas évident. Être tolérant et patient quand quelqu'un nous a blessés est une réponse beaucoup plus créative et qui va plus loin. Cela peut même avoir pour résultat qu'un ennemi devienne un ami. Mais si ça n'est pas le cas, nous apprécions quand même la tranquillité du pardon. Alors, on nous encourage effectivement à ne pas garder de rancune par rapport à ceux qui nous ont blessés. Et donc, ça ne veut pas dire ça y est, on va se faire un gros câlin, quoi. Pas forcément. Et effectivement, parfois ça arrive que des ennemis deviennent des amis. Mais l'idée de ne pas garder de rancune, c'est en esprit arriver, même si c'est pas formulé, à pardonner l'autre. À comprendre que s'il accomplit ça, c'est que lui aussi il est dans le samsara, il est sous l'emprise des trois poisons, que c'est qu'un acte négatif, c'est toujours le fruit d'une souffrance, de la confusion, etc. Et donc, bah voilà, de ne pas garder rancune, ne serait-ce que pour avoir la paix de l'esprit. Pour apaiser notre esprit. La rancune laissera toujours une empreinte négative dans notre esprit. Ne te prête pas aux mauvaises plaisanteries. Voilà, on en a un peu parlé, hein, ça. Je reviens pas dessus. Ne te tiens pas en embuscade. Alors, ne te tiens pas en embuscade, ça veut dire, voilà, quelqu'un qui nous blesse, et puis on dit rien sur le coup. La baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Et puis, Mais en fait, on garde quand même. On garde une trace. Et puis, le jour où la personne est en situation de faiblesse, on peut sortir un vieux dossier. Ah bah ça c'est pas Bodhisattva. Ça fait pas partie de notre. On n'attend pas une occasion. Parfois, c'est traduit ne pas attendre une occasion de se venger. Ne heurtez pas le point sensible. Voilà, ça revient. Pas de commentaire. Ne fais pas porter à la vache la charge du bœuf. Ça, c'est un précepte qui veut dire que quand on lui confie une responsabilité et qu'on n'a pas envie, ne pas chercher à la déléguer sur quelqu'un d'autre qui n'en aurait peut-être pas les compétences. Et puis qui n'a rien demandé, voilà. Si on nous confie une responsabilité à nous et qu'on peut l'assumer, voilà, de ne pas essayer de la donner à quelqu'un d'autre. Ne cherche pas la victoire. Ne cherche pas à être le premier, y compris dans le chemin spirituel. C'est-à-dire, la pratique spirituelle n'est pas une compétition. On pratique sur notre esprit, on pratique pour s'améliorer. Et puis peut-être, si on voit que la jalousie s'élève dans notre esprit parce que on voit que bah voilà, autour de nous, il y a des gens qui ont dont on estime qu'ils ont des plus belles qualités que nous, qu'ils ont plus de privilèges, ou qu'ils ont plus de. Voilà, ne pas essayer de comment dire, d'être. Oui, de faire du chemin spirituel une sorte de compétition. Au contraire, pour un bodhisattva, la joie, la véritable joie, c'est le fait de se réjouir du bonheur des autres. C'est ça qu'on appelle la joie dans le bouddhisme. C'est l'enthousiasme pour le bien. L'enthousiasme pour le bien, ça veut dire l'enthousiasme à pratiquer pour le bénéfice d'autrui. C'est ça qui nous réjouit, qui devrait nous mettre en joie. Et aussi, quand on dit l'enthousiasme pour le bien, ben, c'est quand on le constate chez quelqu'un d'autre. Si on constate que quelqu'un a des qualités, on constate que quelqu'un accomplit des choses positives, ben, au lieu d'être jaloux, ben, au contraire, pratiquer l'inverse, c'est-à-dire se réjouir. Parce que pour un bodhisattva, si quelqu'un fait le boulot à notre place, ben, c'est tout bénef, quoi. Donc c'est une occasion de se réjouir. C'est voilà, quelqu'un qui accomplit le bien, ben, c'est ça de moins à faire. Voilà. Et c'est quelque chose qui est important. La joie, ça fait partie des quatre illimités. C'est-à-dire les qualités, plus on puise dedans, plus il en reste. D'ailleurs, c'est une qualité qui n'est pas une ressource quantifiable. On peut jamais épuiser la joie. Mais la joie dont on parle, la véritable joie pour le bodhisattva, c'est pas forcément la joie liée au plaisir ou aux circonstances favorables, etc. Parce que ça, même si on peut s'en réjouir, elle a un défaut, c'est qu'elles sont circonstancielles. La joie liée au plaisir, la joie liée aux circonstances favorables, comme elles sont conditionnées, elles sont pas ultimes. Elles sont amenées à se transformer. La joie ultime, c'est la joie qu'on cultive par le fait de voir que l'autre est heureux. Et plus on cultive ça, plus il y a matière à se réjouir. Parce qu'on prend, c'est notre attention qui prend l'habitude à voilà, prendre en considération tout ce qu'on voit de bien autour de nous. Plus on le fait, plus on voit que la compassion est constamment à l'œuvre. C'est ça qu'on nous dit. La compassion est constamment à l'œuvre, il suffit d'ouvrir les yeux. Bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne vont pas bien, il y a des comportements qui ne vont pas bien, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont bien. Ça peut se voir à travers un sourire, quelqu'un qui nous fait un sourire, de voir que bah, ça peut nous faire la journée, hein. Un beau sourire au moment opportun, ça fait du bien. La façon, voilà, on voit quelqu'un qui nous dit bonjour, ou quelqu'un qui aide une personne à traverser la rue. Voilà, toutes ces petites choses, apprendre à s'en réjouir de façon à ce que ça devienne important. Et pour un bodhisattva, c'est ça la source de joie ultime. Ne transforme pas les dieux en démons. Les dieux, c'est la pratique du dharma. C'est si la pratique du dharma elle a pour but de diminuer la saisie égocentrique, si la pratique du dharma vise à nous rendre plus orgueilleux, enfin, si la pratique du dharma, voilà, on commence à développer de l'orgueil, que notre ego devient de plus en plus puissant, bah, c'est quelque part, on a transformé le dieu en démon. Et enfin, ne construis pas ton bonheur sur le malheur d'autrui. Voilà. Il y a un adage qui dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, bon bah ça c'est pas Bodhisattva, ça c'est pas pour nous. Et donc quand on a une pensée comme ça, parce que voilà, hein, franchement, on peut avoir ce genre de pensée. On envisage qu'il va arriver quelque chose de négatif à la personne, et puis il y a une réjouissance qui naît dans l'esprit. Ben ça, il faut être à même de le reconnaître et de voir que c'est pas une vue correcte d'avoir ça. Ça, c'est pas conforme à notre souhait de Bodhisattva. Voilà. Alors ensuite, c'est le septième point. Guide de conduite, les conseils nécessaires à l'apprentissage spirituel. En fait, j'ai pas très bien compris la différence entre le sixième point et le septième point. dans le sixième point, c'est des préceptes, voilà, comme des conseils. Puis dans le septième point aussi, et j'ai pas compris pourquoi ils faisaient deux. Pourquoi ça faisait pas un seul point. Mais il doit y avoir une subtilité, hein. Doit y avoir quelque chose. Mais voilà, je peux pas vous l'expliquer parce que j'ai pas très bien saisi. Donc, accomplis toutes les activités avec la même intention. Tout ce qu'on fait dans la journée doit être accompli avec l'intention d'être utile aux autres. Voilà, c'est ça. On fait tout avec cette intention-là, orienté vers ça. Deux choses à accomplir, une au début, une à la fin. Les deux choses à accomplir, la première, c'est l'impulsion, la force de l'impulsion en début de journée, et la deuxième, c'est le bilan en fin de journée. Ça, c'est un petit outil pratique qui est très puissant. Et le pli est vite pris. On nous demande d'en prendre l'habitude. Et si vous en prenez l'habitude, c'est quelque chose qui peut devenir... c'est rapide à mettre en place. On prend l'habitude de se lever et que la première pensée, ce soit le dharma. Penser au dharma, penser à la pratique et orienter toute notre activité, enfin notre... La perspective de la journée vers le bénéfice d'autrui. Vers le fait que les autres souffrent moins, que les autres soient plus heureux, etc. Et ensuite, le bilan en fin de journée. En fin de journée, on fait le bilan. Et donc, si on accomplit quelque chose de bien, eh ben, tant mieux. On le dédie à tous les êtres. Si ça n'a pas été terrible, eh ben, on se donne... l'engagement de faire mieux le lendemain. Bah, c'est pas rien de faire ça. C'est si on se couche avec ça, avec l'engagement de « je ferai mieux le lendemain », vous allez voir que c'est avec ça qu'on va se réveiller. Dernière pensée, la dernière pensée au moment de l'endormissement, conditionne le réveil. Pensez un truc. Vous vous dites, voilà, quand je me lèverai, je poursuivrai ma pratique. On se lèvera avec ça. Donc c'est une bonne habitude à prendre. On peut facilement ruminer hein, le matin. Quand il y a un demi-sommeil, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas ce problème-là. Mais il y a des personnes, c'est mon cas, quand on se réveille, surtout quand on se réveille tôt, il y a une sorte, on n'est pas tout à fait conscient, on n'est pas tout à fait clair. Et du coup, les pensées négatives peuvent se manifester et on les voit pas très distinctement. Et donc, on peut avoir tendance à les ruminer. Donc, si on a eu un souci la veille ou si on a des préoccupations en ce moment, eh ben, si on se lève avec ça et qu'on laisse ça ruminer avant de se lever, ça peut prendre beaucoup de puissance. Et en plus, on n'a pas la vigilance pour avoir du recul. Donc, souvent, on peut grossir le problème. Dans ce cas-là, le mieux, donc on nous dit, c'est tout de suite, on se lève, méditation. Si on ne fait pas ça, ne serait-ce que de se lever, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire, plutôt que de ruminer comme ça, et puis laisser les pensées noires, trucs, se mettre debout, et ben ça fait circuler les souffles. D'ailleurs, on se lance dans la journée, on ne réfléchit pas, on passe sous la douche, on va se faire un café, etc. Vous allez voir que ça change la donne. On voit que peut-être pendant un quart d'heure, on était ruminé, puis dès qu'on se lève, on voit que ça... Ben, en fait, c'était pas si noir que ça. Donc voilà, faut pas, quand on a cette tendance-là, faut pas la laisser s'installer. Faut se secouer. Sois patient dans les deux cas, c'est si on est heureux, on est patient. Si on est malheureux, on est patient. On se rappelle que toutes les circonstances sont transitoires. Quand les circonstances vont super bien, on n'en fait pas tout un plat. Ça passe, donc on reste stable. C'est ça la patience, on reste stable. Quand les circonstances vont de travers, on reste stable aussi. On sait que c'est impermanent. Ces préceptes, hein, je les dis comme ça, mais ils sont tous vachement exigeants. Hein, quand ça ne veut pas dire que c'est facile, mais n'empêche que c'est bien de les avoir. En fait, je vous l'avais dit, hein, Lojong, c'est vraiment un bouquin de chevet. C'est le genre de bouquin, on le laisse sur sa tablette, puis de temps en temps, on l'ouvre. Et puis, ah oui, c'est vrai. Ah oui, je sais ça. Je vous avais dit, j'ai une application sur mon téléphone. Chaque fois que je l'ouvre, il me balance un preset de Lojong aléatoirement. Et du coup, ça prend par surprise. Je l'allume. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Ah! Et ce qui est marrant, c'est que je trouve que la force des préceptes, quand on les connaît, alors au début, voilà, on les lit une fois, et puis on va en retenir un ou deux qui va nous marquer. Puis on le relit, deux ou trois, etc. Et puis ensuite, on commence à le connaître, un peu, grosso modo, quoi. On connaît les grandes lignes. C'est sur la table de nuit, de temps en temps, on y revient. Ah oui, tiens, celui-là. Il est puissant, celui-là aussi. Et puis, ce qui est très puissant dans les préceptes de Lojong, c'est qu'ils ont le pouvoir de jaillir au moment où justement on commence à aller de travers, quoi. Par exemple, voilà, on se surprend à critiquer les autres, et puis là, il y a le... Ne parle pas des défaillances. Ah oui, c'est vrai. Et ça peut être très culpabilisant. Il y a des gens qui me disent ça. C'est dur, le Lojong. Oui. Parce que à partir du moment où on pratique le Lojong, alors, ça n'a pas du tout pour but de nous culpabiliser, on va y revenir. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on lit ça, bah quelque part, on voit plus ce qui se passe dans notre esprit, on voit plus notre attitude égoïste, ou une attitude qui n'est pas conforme à l'entraînement de l'esprit, ou qui n'est pas conforme au voeu de Bodhisattva. Pourquoi? Parce que on commence à pratiquer le Lojong, et donc du coup, à la fois, on se voit dans nos travers, dans nos tendances habituelles, et à la fois, il y a les préceptes de le Lojong qui nous pètent à la figure, entre guillemets. Et ça peut nous renvoyer l'image de oh, non, qu'est-ce que je suis égocentrique, qu'est-ce que je suis pas un bon pratiquant, etc. C'est pas du tout le but. Le but, c'est pas de nous faire culpabiliser. Le but, c'est de nous faire voir. Avant de pouvoir travailler sur l'esprit, bah déjà on voit ce qui a travaillé. Ça fait partie du chemin. Dans l'entraînement de l'esprit, il y a entraînement. Et effectivement, avant de pouvoir transformer, eh ben on est quelque part face à face avec tous ces comportements. Et on les voit de plus en plus clairement. Et ça renvoie une image qui n'est pas forcément très glorieuse de nous. Mais l'idée, c'est pas de nous culpabiliser encore une fois. L'idée, c'est qu'on voit sur quoi on a travaillé. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt à voir ça de nous-mêmes. Il faut être prêt à constater que oui, il y a du boulot. Ouais, on en est tous là. Ça fait partie du chemin. Assume les trois causes principales. Alors, il y a trois causes principales à réunir pour la pratique. Il y en a juste trois. Mais c'est le minimum syndical. Sans ça, on ne peut pas aller jusqu'au bout du chemin. Ces trois causes principales, c'est un lama qualifié, des instructions qu'on est à même de comprendre et qu'on est à même de pratiquer, et des causes vitales, c'est-à-dire un toit, de la nourriture, de quoi se vêtir. Et ça, c'est important pour tout le monde, même les yogis les plus avancés, même dans la vie de Patrul Rinpoché. Qui était quelqu'un qui avait atteint la plus haute réalisation. Il avait des disciples, tous ses disciples, les plus trucs, c'était des ascètes, quoi. C'était des gens qui allaient méditer dans les forêts pendant des mois, etc. Mais il leur disait toujours, hein, vous allez en retraite, il faut du ravitaillement. On a un corps, il faut en prendre soin. Faut pouvoir le vêtir, faut pouvoir le loger, faut pouvoir avoir un toit pour dormir, faut pouvoir avoir de la nourriture. Donc ne pas négliger cet aspect-là. Quel que soit le niveau d'avancement, les instructions du Dharma et le lama qualifié. Il n'y a pas grand-chose en fait, hein. Tout le reste qu'on peut avoir, c'est-à-dire du confort, un entourage excellent, des biens matériels, etc. Si on a ça, c'est bonus, c'est excellent, c'est super. Mais si on l'a pas, c'est pas grave non plus. C'est-à-dire, ça montre bien que même voilà, être en bonne santé n'est pas considéré comme une cause indispensable pour pratiquer. Bon, bien sûr, les gens avancés, même quand ils sont en mauvaise santé, arrivent très très bien à pratiquer. nous, à notre niveau, ça peut nous impacter, en fait, d'être malade. Mais n'empêche que ce n'est pas un obstacle à la pratique spirituelle. Mais voilà, il ne faut pas laisser ces trois choses se dégrader. La relation avec notre tuteur spirituel, si on en a un. Les instructions et l'accès et les moyens de pratiquer. Et enfin, voilà, les conditions favorables, un toit, de la nourriture et des vêtements. Garde les trois inséparables. Les trois inséparables, c'est le corps, la parole et l'esprit. On s'efforce, s'abstenir des actes négatifs par le corps, la parole et l'esprit, et accomplir des actes positifs par le corps, la parole et l'esprit. Médite toujours sur tout ce qui t'exaspère. Rinmu Rinpoche dit « Les situations fâcheuses et douloureuses fournissent les meilleurs sujets à la pratique. Elles nous aident en supprimant l'aversion, la peur et l'égoïsme. Cela fonctionne avec toutes les émotions. En leur faisant face, nous pouvons les regarder, briser leur emprise sur nous et les laisser aller. Ne sois pas affecté par les circonstances extérieures. » Shogyam Trungpa dit « C'est très simple. Si votre situation est bonne, expirez-la. Si elle est mauvaise, inspirez-la. » C'est la pratique de Tonglen. Il nous arrive une tuile, on imagine qu'on prend la souffrance de tous les êtres. Il nous arrive quelque chose de bien, on imagine qu'on la partage avec tous les êtres en l'expirant. Du coup, c'est à ça que renvoie le précepte, ne sois pas affecté par les circonstances extérieures. On ne dépend pas des circonstances pour pratiquer. Si la circonstance est bonne, on pratique avec les bonnes circonstances. Si elles sont mauvaises, on pratique avec les mauvaises circonstances. Alors ensuite, le précepte suivant dit qu'il faut pratiquer l'essentiel maintenant. C'est un précepte qui d'abord nous dit qu'il ne faut pas attendre demain. Si on a les circonstances pour pratiquer le dharma, c'est maintenant qu'il faut le pratiquer, il ne faut pas attendre. Et puis il y a un deuxième point qui est très important dans ce précepte, c'est qu'on nous dit que entre cette vie et entre la vie suivante, c'est la vie suivante la plus importante. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que en fait, c'est ce que ça nous dit, c'est qu'on doit, on ne doit pas attendre des bienfaits limité à cette vie, dans notre pratique. Ce qu'on doit viser, c'est comprendre que cette vie est juste une parenthèse. Dans le bouddhisme, on considère que la mort n'est pas une fin en soi. C'est la mort de ce corps. Mais que l'enjeu, il est beaucoup plus vaste que ça. Et donc, il faut imaginer que tout ce qu'on peut accomplir de positif, toute la pratique du dharma, c'est pas tant pour acquérir une bonne situation dans cette vie ou des bonnes, voilà, des circonstances favorables ou un bien-être dans cette vie-là, c'est beaucoup plus important que ça. C'est justement envisager qu'on en a pour voilà, que ce qui s'étend après, c'est l'éternité. C'est ça qu'on doit viser. C'est pour ça qu'on dit de cette vie ou de la vie suivante, c'est la vie suivante la plus importante. Même s'il nous arrive des trucs négatifs dans cette vie-là, ne pas trop se pencher là-dessus, parce que ce qui est le plus important, c'est voilà, qu'est-ce qu'on plante comme graine pour les vies futures. Je ne sais pas si je me fais... c'est un peu difficile à envisager, mais... Parfois, on parle de ça quand on parle de l'impermanence. Que oui, peut-être on peut vivre des circonstances difficiles dans cette vie-là, mais que tout est impermanent. Mais je crois qu'on n'a pas idée à quel point tout est impermanent. C'est-à-dire, c'est aussi, du point de vue bouddhiste, c'est l'éternité qui s'étend devant nous. C'est-à-dire, on considère que la mort du corps n'est pas du tout une fin en soi. Dans le sens où l'expérience continue. Bien sûr, on n'aura plus cette interface qui nous permet d'être en contact avec ce monde. Ce corps, en fait, il nous permet de percevoir ce monde. La conscience ne peut pas percevoir ce monde sans cette interface. Je ne peux pas percevoir les sons si je n'ai pas l'interface du corps avec le système auditif, etc. Et puis voilà, tout ce qui est... Je ne peux pas faire l'expérience des couleurs, je ne peux pas faire percevoir ni les formes, ni les sons, ni les goûts. Ni... J'ai besoin de ce corps pour faire l'expérience de ce monde. Mais n'empêche que dès qu'on dort, même si ce corps-là, il a pas, il fait plus l'expérience de ce monde-là, l'esprit, c'est pas un problème pour lui. Il se fabrique un environnement complet, avec des odeurs, des sensations agréables, désagréables, etc., qui est uniquement mental. Et ce qu'affirme le bouddhisme, c'est que post-mortem, c'est ça qui va se passer. D'ailleurs, le corps sera plus voilà, ne sera plus là pour qu'on fasse l'expérience de ce qu'on a vécu. Mais par contre, l'esprit continue, lui. Et donc, du coup, c'est très important de ne voilà, de pas s'attarder sur vouloir obtenir, voilà, s'agripper au succès, s'agripper à la réussite dans cette vie-là, parce qu'il y a un enjeu qui est beaucoup plus que ça. Même nos proches ne pourront pas nous accompagner dans les vies futures. Donc, il y avait un lama qui disait, alors bon, si, dans la pratique du dharma, si vous êtes un loser en vêtements, enfin voilà, vous savez, loser à la mode, vous n'êtes pas à la mode, très bien. Si vous êtes un loser en conversation, pas de problème. Si vous êtes un loser dans le monde, si vous n'avez pas de succès professionnel, pas de problème. Pour un pratiquant du dharma, c'est pas un problème. Même, ça peut même parfois être un avantage de ne pas avoir ce genre de préoccupation. Parce que, effectivement, notre entraînement ne vise pas cette vie. Il vise beaucoup plus loin. Ensuite, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose très importante, c'est de notre bien-être ou du bien d'autrui, c'est le bien des autres qui est plus important. Alors, parfois, on a des cas de conscience. On pèse le pour et le contre. Mais voilà, il faut se rappeler que pour un bodhisattva, c'est le bien des autres. Quand on a un choix à faire, parfois, avec les cartes qu'on a en main, toujours prendre en considération que c'est le bien des autres qui vient avant notre propre bien-être. Alors juste, je vais quand même nuancer ça. Il y a trois niveaux de bodhisattva. Il y a niveau de bodhisattva inférieur, niveau moyen et niveau supérieur. On en avait parlé la dernière fois. Ça vous dit quelque chose, non? Il y a trois niveaux de bodhisattva. Le niveau supérieur du bodhisattva, ça cogne. Le niveau à un certain degré, enfin voilà, on dit le bodhisattva supérieur, il a plus à s'occuper de son propre sort. Il y a une compréhension qui fait qu'il n'y a plus à se poser de questions. Quand la saisie égocentrique est déracinée, il n'y a plus trop de problèmes, quoi. Ce qui est important, c'est le bien des autres. C'est si un bodhisattva ne voit qu'il n'est pas utile aux êtres, eh ben, il n'a plus qu'à partir. Pour lui, sa vie n'a pas de sens s'il ne peut pas être utile aux êtres. Ça, voilà, c'est pour les bodhisattvas supérieurs. On ne se préoccupe pas de son propre sort. Sa vie n'a pas d'importance, si ce n'est que d'être utile aux autres. Le bodhisattva moyen, il va prendre en considération que si un acte peut avoir des conséquences extrêmement positives, au détriment de la souffrance pour soi, d'un peu de souffrance pour soi, alors il faut accomplir. Là, je me fais comprendre. Oui. Si un acte peut avoir de très bonnes conséquences, au détriment d'un peu de souffrance pour soi, il faut l'accomplir. Ça, c'est le bodhisattva moyen. Et enfin, le bodhisattva de niveau inférieur doit quand même se protéger. On est en chemin. Et si on n'a pas une certaine compréhension, on nous dit que si un acte a des résultats très positifs, mais que le fait de l'accomplir aura beaucoup de négativité sur nous, une impact très, très douloureuse pour nous, alors on dit on doit se protéger. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Celui-là aussi, il a tendance à me péter à la figure quand je... Ah, je suis là. Ça, c'est aussi, c'est très vite fait. Et puis voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est une tendance qui est très... qui est... voilà, c'est une habitude qui est vite prise, en fait. De quand il nous arrive un problème, voilà, on s'apitoie, on se lamente sur son sort. Et puis du coup, l'esprit devient très étriqué. Voilà, donc ce précepte est là pour nous mettre en garde contre ça. Et plutôt de nous inviter à, quand ça arrive, de relativiser en regardant la souffrance qu'il y a autour de nous. Voilà... on a un mois de juin pourri, il fait mauvais, il n'y a plus de saison, on n'a pas eu d'été. On n'a pas eu d'été. On se rend compte. Et puis finalement, on apprend qu'en Inde, en ce moment, il fait plus de 50 degrés.
Il n'y a pas d'eau.
Et puis, il n'y a pas qu'en ce moment. C'est un problème qui, chaque année, revient. Et maintenant, les gens ont peur. C'est-à-dire... Et il y a même de la violence qui naît de ça. Comme les gens ont peur de manquer d'eau, bah, il y a eu beaucoup d'animosité, une sorte d'ambiance agressive qui... et donc on parle de ça d'actualité en ce moment. Voilà, bah, nous on manque pas d'eau. Nous l'eau c'est accessible, oui. Mais voilà, faut s'en réjouir parce que... Quand on dit qu'il va y avoir des guerres pour l'eau, bah... ouais. Ça pourrait peut-être... voilà, donc il n'y a pas lieu de se plaindre, quoi. En tout cas, pas de ça. Voilà, parfois, ça aide à relativiser. Ne sois pas envieux. Donc voilà, on en a parlé, la jalousie, dans le bouddhisme, c'est le fait de ne pas arriver à se réjouir du bonheur de l'autre. Et l'antidote, bah, c'est de s'efforcer de se réjouir du bonheur de l'autre. Même artificiellement, hein. Parfois ça paraît difficile quand le facteur perturbe. La jalousie, il a rien pour lui, ce facteur. Il est terrible parce que, à la limite, la colère, on peut se sentir. Quand on est en colère, on peut se sentir que c'est une juste colère, quoi, qu'on a raison d'être en colère, qu'il y a quelque chose d'un peu digne dans la colère. On n'est pas content, quoi. La jalousie, on peut rien faire. C'est vraiment, il est
indéfendable.
Ah, non seulement on n'est pas crédible, mais en plus on se sent pas bien dans la jalousie, quoi. On se sent absolument pas bien, on est incapable de se réjouir, on est sans arrêt en train de se comparer, et le bonheur de l'autre nous torture. D'ailleurs, tant qu'il est heureux, bah, je suis malheureux. C'est une horreur. Il est violent, celui-là. Et donc bon, l'avantage de la jalousie, c'est qu'il est facile à détecter. On est tellement pas bien que, au moins, on voit quand il est là dans l'esprit. Et donc, on s'entraîne à se réjouir du bonheur de l'autre. Et même si on a l'impression de faire semblant, ça marche quand même. Et il faut se pousser un petit peu. Allez. Oui, après tout. Enfin, voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'on contre la jalousie. De penser que le fait que l'autre soit heureux ne nous enlève rien. Au contraire. Par l'interdépendance, on sera les premiers servis. Si l'autre s'éveille avant nous, tant mieux. On sera les premiers servis. Ah oui, alors ne sois pas... comment dire? Là, c'est traduit par « ne sois pas inconséquent ». Bon, il y a d'autres traductions qui sont mieux que ça.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de ne pas se laisser aller, de ne pas se laisser emporter, alors soit par le plaisir, soit par le déplaisir. Se laisser emporter par le plaisir qui pourrait nous tendre vers l'euphorie. L'euphorie, donc, c'est considéré comme un démon. Dans le bouddhisme tibétain, l'euphorie est un démon. L'euphorie, c'est quand ça va super bien. Ça va super bien, et du coup, on en fait des caisses. On en fait trop. Ça monte dans les tours. Et au point qu'on en devient insensible. Le défaut de l'euphorie, c'est que si on se laisse emporter, si on se complaît là-dedans, eh ben, on perd en sensibilité, on devient indifférent. Ça pourrait, par exemple, ben voilà, on est dans notre truc là, et puis du coup, on balance des blagues sans faire attention si c'est blessant ou pas. Voilà, en balançant une blague, on n'a pas fait attention à la personne qui souffre, qui a un problème en ce moment, qui est dans son coin, etc. Parce que voilà quoi, euphorie, on se complaît là-dedans, on en fait trop. Donc se garder de ça, rester stable. Quand on se sent bien. Et puis, inversement, bah, quand quelque chose de dur nous arrive, ne pas en faire des caisses non plus. Bah, ne pas non plus trop s'apitoyer, trop le prendre à cœur de manière personnelle. Et enfin, n'attends pas de grand merci. Celui-là aussi peut être utile à se rappeler. Dans la pratique, on n'attend pas de retour, on n'attend pas de grand merci. Après tout, si on pratique l'entraînement de l'esprit, c'est pour nous, hein. Voilà, c'est pour aller mieux. Donc, je veux dire, bien sûr, l'entraînement de l'esprit, la méthode, c'est de se consacrer aux autres, de prendre en considération le bonheur des autres. Mais il n'y a pas de raison d'attendre que les gens nous applaudissent ou ne. C'est bien, disons, c'est bien ce que tu fais, etc. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, tant pis, on n'a pas à attendre ça. On pratique, qu'on ait remerciement ou pas de remerciement. Ça nous évite d'être déçus en plus. Pas d'attente, pas de déception. Voilà, alors je vais vous lire les vers de conclusion. Ces instructions sont comme la quintessence d'un élixir. Elles enrichissent le continuum de l'expérience et sont salutaires à tous. Quelles que soient les aptitudes, ce sont des enseignements profonds transmis par Serlingpa, qui parmi les trois principaux maîtres d'Atisha a eu de loin la plus grande bonté. On dit qu'Atisha, quand il rendait hommage à tous ses maîtres, voilà, il les énumérait tous, et puis il mettait sa main, il joignait ses mains au niveau du cœur, et quand il citait Serlingpa, il joignait les mains au niveau de la tête et il versait des larmes. Parce qu'il disait que c'était lui qui lui avait transmis la bodhicitta, l'esprit d'éveil. Le réveil de l'énergie karmique, d'apprentissage spirituel antérieur, soulevant en moi un intérêt si intense que je n'ai pas tenu compte de la souffrance, de la critique, et je me suis mis en quête des moyens de subjuguer la saisie égocentrique. Maintenant, je n'aurai aucun regret, même à ma mort. Quand l'énergie karmique des existences antérieures du grand maître spirituel Chekawa s'éveilla, son seul attrait fut ses enseignements. C'est avec grande difficulté qu'il se mit à leur recherche et reçut de la lignée père-fils, la racine de tout le dharma, les instructions clés pour la maîtrise de la saisie égocentrique. Lorsqu'il se fut bien exercé, il préférait les autres à lui-même et ne prit plus jamais garde à ses propres désirs. Il n'avait aucun regret car il avait la certitude d'avoir atteint l'objectif, le résultat final de l'adhésion au dharma. Ces deux dernières strophes sont les commentaires par lesquels conclut l'auteur de ce cycle d'enseignement. Voilà. Donc, voilà, je vous invite à lire d'autres commentaires. Alors, la Bible, c'est celui-là. Jam Gulkontrul, qui est un maître du siècle dernier, peut-être même avant.
19e.
Comment ?
19e.
Voilà, qui est vraiment un classique, l'alchimie de la souffrance, c'est-à-dire comment transformer la souffrance en voie d'éveil. Jam Gulkontrul Rinpoche. Et puis, bien sûr, il y a plein de commentaires des maîtres contemporains. Mais c'est bien aussi de revenir aux classiques parce que eux, les commentaires sont très très courts, mais ça va droit au but. Ensuite, c'est bien aussi d'avoir des commentaires de Rinpoche Rinpoche, de tous ces maîtres contemporains qui sont dans une voie plus graduelle, plus progressive. Parfois, c'est un peu dur à avaler hein, quand on lit des commentaires des maîtres du passé, mais c'est toujours important quand on commence à s'entraîner d'avoir ça sous la main. Voilà, puis voilà, Lojong, il est commenté par plein de maîtres.
Et comment s'appelle votre application que vous avez sur votre téléphone ?
Alors, c'est Lojong.
Oui.
Alors, ça s'écrit L-O-J-O-N-G. Mm-hmm. The Mind Training. C'est en anglais, mais il y a possibilité de traduire tous les slogans en français, ce que j'ai fait. Je sais qu'il est sur iPhone, mais il est aussi sur Android. Par contre, sur Android, il faut un peu chercher pour l'avoir. Petit point technique pour les geeks.
Mind training. Dans tous ces points qu'on remarque, les pensées négatives qu'on s'entraîne à voir, et puis après à passer au remède en disant je remarque une colère, une jalousie, et donc je m'entraîne pour l'effacer ou la dépasser. Il y a entre les deux, il y a une étape pour accepter que. Sans se crisper, que ça apparaisse.
Oui, c'est-à-dire.
Voilà, c'est ouais. Ça, mais c'est pas grave.
Oui.
Pas sans vouloir et se crisper.
Ouais, c'est ça. Il y a ça, c'est pas grave, mais ce n'est pas vrai. C'est surtout ça. C'est ça le truc. C'est que la colère, par exemple, les pensées négatives, les défauts, etc., c'est se garder une marge. C'est-à-dire, oui, c'est là, mais une partie de nous-mêmes qui ne va pas adhérer. Qui va se dire, si je pense ça, c'est que c'est vrai. C'est ça le truc. Et donc, du coup, si c'est vrai, j'essaye de lui donner crédit. J'essaye de le justifier, j'essaye de lui donner... parce que c'est ça, en fait, le fait de le croire. Et ensuite, on va trouver vraiment des arguments pour renforcer cette idée-là. Un tel est con. Si ça, on le laisse s'installer... Et ensuite, ce que fait l'esprit, le mental, c'est qu'il va en rajouter des couches. Il va justifier que j'ai raison de penser ça à la preuve. Et il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et puis en plus, il est comme ça. Et puis en plus, on commence à le regarder comme ça. Donc on renforce. Et pendant tout le temps où on fait ça, on ne fait que penser à ça. Donc ça pourrait durer une seconde, mais ça pourrait durer un quart d'heure. Et en plus, ça va imprégner notre façon de voir. Et au bout d'un moment, on ne voit que ça. Donc l'idée, c'est pas de dire « c'est mal ». Que je vois ça, c'est pas tant ça, c'est faux, c'est pas vrai, c'est juste une pensée. Et on s'efforce de ne pas la laisser, de ne pas la ruminer. Parce que plus on la rumine, plus on rajoute des arguments. C'est comme ça que ça marche. L'esprit, il est très malin. Il va trouver mille et une manières de justifier qu'on pense ça. Surtout si c'est négatif. Donc l'idée, c'est vraiment, j'y crois pas. Voilà, je me laisse... la marge, la liberté de me dire c'est juste une pensée, ces circonstances voilà, et puis je laisse passer la pensée, si on l'entretient pas elle finit par passer, et donc du coup en plus, si on arrive à la laisser passer le fait qu'il y en a une autre qui se pointe bah du coup on en a moins peur. Ça pose moins de problèmes d'avoir des pensées négatives. Ce qui les rend négatifs, c'est tout ce qu'on charge dessus, quoi. Si on la reconnaît juste à l'état de pensée, c'est juste une pensée qui n'a pas d'existence matérielle. Voilà. Ça permet justement de ne pas se culpabiliser, de pas en avoir peur, quoi.
C'est difficile de parfois comment dire des raisons objectives. Ah bah
c'est un instant.
De penser quelque chose.
C'est un instant de distraction. Un instant de distraction suffit.
Les raisons objectives.
En fait, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est tellement exigeant qu'en gros ce qu'on est en train de nous dire, c'est vigilance tout le temps. Ah bah y a pas. Si on ne veut pas si on veut rester dans l'entraînement de l'esprit, c'est clair les instructions. Ça voudrait dire idéalement vigilance tout le temps. Et c'est ça, c'est là que nous emmène l'entraînement de l'esprit. C'est que si on veut vraiment pouvoir appliquer tous ces préceptes, bah ça nous demande d'être vigilant tout le temps, à chaque instant. Il suffit d'un instant, ce qu'on appelle l'ignorance, parfois j'ai trouvé ça chouette comme traduction, quelqu'un l'avait traduit par inadvertance. La confusion, c'est un moment, un instant d'inadvertance. On n'a pas fait gaffe, on n'a pas vu la pensée s'élever et on lui a donné du crédit. Et ça prend une fraction de seconde, on ne l'a pas vu, bah ça y est, on rumine. Et le temps qu'on s'en aperçoit, ça fait peut-être 10 minutes qu'on a bien chargé la personne de toutes nos pensées négatives, de toute notre vue erronée. Donc c'est sûr que c'est exigeant. Ouais. Mais par contre, plus on va pratiquer, plus on va voir que pourquoi se faire autant souffrir alors qu'il suffit d'être présent. Il suffit de ne pas se laisser embarquer par toutes ces pensées. Parce qu'au fond, c'est ça, hein, il s'agit d'un choix. Il s'agit d'un choix. Le choix d'être présent, c'est-à-dire... ou le choix de subir... En fait, il y a Mingyur Rinpoche d'une phrase que j'adore. Il dit, on a deux choix qui s'offrent à nous. Soit subir l'inconfort d'observer ce qui se passe dans notre esprit, soit subir l'inconfort d'avoir les conséquences de notre manque de vigilance. Mais des deux, il y en a un qui est clairement moins inconfortable que l'autre. Mais oui, effectivement, être sans arrêt d'observer son esprit, c'est exigeant. C'est pas confortable. Ça demande à être vigilant tout le temps, quoi.
Oui, il y a des choses sur lesquelles c'est plus facile de l'envisager, par exemple sur de la colère. Je veux dire, bon, on ressent de la colère, on estime qu'on a des raisons, mais on se voit emporter, et puis je trouve que c'est plus simple de pouvoir s'en détacher et d'essayer d'y trouver une antidote et voir la fausseté de son comportement. Quand c'est par exemple de la peur pour quelqu'un ou pour soi-même sur un sujet, c'est plus difficile, je trouve, parce que risque potentiel qu'il y ait quelque chose existe, et donc se détacher et se dire la peur est une erreur ou une fausseté. Ben, pas forcément, potentiellement, peut-être pas. Et donc, c'est, par exemple, pour la peur, c'est plus difficile de travailler que sur de la colère ou de la jalousie, par exemple.
Oui, c'est plus difficile, mais ça n'est pas moins vrai. Ça n'est pas, comment dire, plus vrai, je veux dire. En tout cas, ça ne n'apporte rien. C'est comme... Voilà, on peut avoir peur de tomber malade, mais s'en inquiéter ne fait pas ne pas tomber malade. D'ailleurs, il n'y a personne qui a dit « depuis que je m'angoisse à l'idée d'être malade, je ne tombe plus malade ». Et puis d'ailleurs, plus je m'angoisse, moins je tombe. Non, ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, de toute façon, et même si on fait tout pour ne pas tomber malade, et même si c'est super important de tout faire pour ne pas tomber malade, on tombe malade quand même. Mais entre les deux, bah, ce que va dire l'enseignement bouddhiste, c'est que finalement, le fait de s'inquiéter de tomber malade, c'est quelque chose qu'on rajoute, mais qui n'apporte rien. Le fait d'avoir peur, par exemple, de tomber malade, ne va pas apporter quelque chose de plus, de mieux, au chemin biblique. Et donc, du coup, bah, c'est un peu la phrase de Shantideva qui dit « Si le problème a une solution, pourquoi s'en faire? Si le problème n'a pas de solution, pourquoi s'en faire ?» Dans les deux cas, bon, bah, voilà. Donc c'est vrai, et je dis pas que c'est, mais ça rend pas le fait que c'est, je suis pas en train de dire, donc du coup c'est facile de travailler sur la peur, non. Mais en tout cas, le fait de comprendre que entretenir des pensées d'angoisse n'apporte rien, ça peut nous aider à me dire, voilà, pourquoi je continue à ruminer, quoi, et nous inviter à rester dans le moment présent. C'est ça la clé, hein. C'est que la plupart de nos souffrances, c'est justement, c'est les spéculations par rapport à l'avenir ou ce qui s'est passé, on le rumine, etc. Mais au bout du compte, on peut pas faire l'expérience du futur. Ça n'existe pas. On peut pas en faire l'expérience. On peut y penser, mais c'est pas ce qui se passe. C'est pas vrai. Peut-être que ça se passera pas comme ça. C'est juste des pensées. Puis le passé, c'est pareil. On peut pas en faire l'expérience. On peut y penser, mais c'est plus l'expérience du passé. Et finalement, il y a la seule chose dont on peut faire l'expérience, c'est ce qui se passe là, ici et maintenant. Et plus on le fait, plus on voit que le moment présent, si on s'autorise à rester dans le moment présent instant après instant, il y a un espace dans lequel il n'y a pas de souci. Et qui, voilà, qui est pas, il est propre à tout le monde, cet espace-là. On a un espace de vacances à disposition tout le temps, dans lequel on peut vraiment trouver un refuge, précisément quand on se voit en train de ruminer. Mais la peur, c'est quelque chose qui s'entretient. Et si on voit qu'on peut, on trouve les moyens, on a l'entraînement pour rester dans le moment présent et voilà, s'autoriser à ne pas focus sur ce qui nous angoisse, il y a une paix qui est disponible. Et qui en plus nous permettra de faire face à la situation qui nous pose problème, peut-être de manière beaucoup plus détendue, avec beaucoup plus de moyens, parce que justement on n'est pas angoissé, donc on est plus clair.
Je suis pas encore là, je suis là maintenant. Est-ce que l'esprit lui-même, il ne me prend pas comme un rejet ?
Il n'y a pas de problème, en tout cas, à faire des projections, parce que dans la vie, on fait des projections, tout le temps. On se projette et c'est assez important pour fonctionner, pour travailler, enfin voilà, on fait des projets. Ce qui est là, ce dont on parle, c'est quand nos projections génèrent des angoisses. Et là, ce que je voulais souligner, c'est que se laisser la liberté de se dire ce n'est pas vrai. C'est-à-dire les angoisses que ça génère, on est en train de les générer par rapport à quelque chose qui n'existe pas encore. C'est là-dessus qu'on travaille. C'est pas tant sur les projections, parce que on fait des projections et on se projette et pas de problème. Mais par contre, on travaille sur se libérer de ce que ça génère. C'est-à-dire, on crée soi-même des apparences menaçantes. Et c'est comme un magicien qui crée une apparence effrayante et puis qui se fait peur lui-même. C'est ça l'idée. C'est que on crée des choses avec notre esprit qui n'existent pas. C'est juste pure création, mais c'est pratique. Ça peut nous permettre de planifier des choses. Mais par contre, se rappeler que c'est des projections. Se rappeler que c'est des créations de l'esprit.
Donc on ne peut pas s'empêcher de le voir, de regarder.
Oui, on le voit et ça se passe dans l'instant présent. Ça n'est pas le futur qu'on est en train de regarder. Une image, une projection mentale n'est pas le futur. C'est une idée qu'on se fait du futur, mais ça n'est pas le futur. On ne fait pas l'expérience de ce qui va se passer. Elle a lieu dans le moment présent. On crée une image dans le moment présent.
Mais ce que je veux dire, moi, c'est quand l'esprit est dans cet état-là, est-ce qu'il faut couper court ou bien laisser se dérouler tout en regardant?
Ou, si, ça dépend. Si ça génère des angoisses, par exemple
Angoisse ou pas, pas spécialement si ça génère des angoisses.
Si on est conscient qu'on est en train de faire des projections, pas de problème.
Faut pas couper court, parce que moi je coupe court.
Alors non. À partir d'un. Par exemple, quand on fait la pratique de chiné, tout simplement, on nous dit. Lama Tsultrim, il enseigne toujours chiné en trois points, et il dit en fait l'esprit distrait, l'esprit non distrait. L'esprit. Non distrait, c'est vous êtes conscient de votre support de méditation, par exemple la respiration. Si tout en étant conscient du support de méditation, vous êtes conscient des pensées, vous êtes conscient des projections, alors vous n'êtes pas distrait. Aucun problème. Si vous êtes dans vos pensées, en train de faire les courses, etc., mais que vous n'êtes plus conscient du support de respirer, c'est qu'il y a distraction. Vous êtes absorbé, vous n'êtes plus là. Et ça, on peut très bien le voir, quoi. On parle à quelqu'un, la personne nous parle, et puis on pense à un autre truc. Mais au point que, en fait, on est complètement absorbé. Et du coup, pardon, qu'est-ce que tu as dit ? Bon, ça, c'est la distraction. Par contre, ça peut nous arriver de parler à quelqu'un, on l'écoute, et en même temps, il y a des pensées qui nous traversent, mais on voit. Ah oui, tiens, faut que je note ça. Ah oui, je continue à écouter la personne. Voilà, il y a des choses qui nous traversent, mais là, il n'y a pas de distraction parce que on est conscient que c'est des pensées à ce moment-là. On n'est pas parti. Voilà, c'est ça la nuance. On est conscient qu'on est là. Bon, vous avez un petit creux ?
T'as pas eu de dessert, hein ?
Ah, j'ai pas eu de dessert. C'est ça le problème. Bon, coupé.
Juste avant qu'on s'arrête, parler du passé, autant le futur, je peux comprendre tout à fait qu'on ne va pas s'angoisser de ce qui va se passer, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ok, ça me paraît relativement facile. Et le passé, il est là. Et le passé, on ne l'a pas forcément vu comme il était. Et par moments, je pense que c'est important de... d'y retourner, en fait, de travailler dessus, d'y penser, parce qu'il a une influence sur notre présent. On ne peut pas dire, enfin, moi je pense, on est d'accord que le présent, l'instant, c'est plus important, mais le passé, c'est énorme aussi.
Mais le passé, en fait, ce que propose...
Fait dans le présent,
ce que propose... alors je vais nuancer, je vais dire ce que propose le Dharma dans les enseignements du Bouddha. Le Bouddha ne nous propose pas de revenir dans le passé. Ça ne veut pas dire que on soit obligé de ne pas y revenir. Enfin voilà, il ne propose pas ça, mais nous on peut. Voilà, par exemple, il y a des gens qui suivent des psychothérapies. Justement, et qui vont s'appuyer sur ce qu'on a vécu, se rappeler ce qu'on a vécu, etc., avec plus de conscience. Et donc, du coup, ça peut nous apporter quelque chose. Moi, je connais des gens qui pratiquent le dharma, et puis qui entretiennent des relations avec un psychologue depuis des années, et qui trouvent un complément super. Dans le dharma, on ne propose pas ça, parce que ce que le Bouddha dit... En gros, c'est y a une histoire par rapport à ça. Il dit l'histoire, c'est si on vous tire une flèche dans l'œil, moi je m'occupe de retirer la flèche, je m'occupe pas de savoir d'où elle vient, parce que le temps de savoir d'où elle vient, ben en fait, voilà, j'aurai des gros problèmes. Voilà, c'est un peu ça. L'idée d'Arma, c'est que il propose une méthode dans laquelle il n'y a pas besoin. Mais c'est très idéaliste, c'est-à-dire si on trouve des compléments qui nous aident en plus sur le chemin, moi je dis, bah, tout bonus, hein. Si voilà, on trouve dans la psychothérapie et puis dans le fait de revenir sur le passé des outils qui nous aident à nourrir et puis qui nous apportent quelque chose, super, il faut prendre tout ce qui est bon. Dans le dharma, tu ne vas pas trouver ça, parce que la méthode proposée par le Bouddha, elle est autre, et c'est une méthode qui se dispense, qui nous mènera jusqu'à la libération souvent, sans qu'on ait besoin de ça. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a obligation de ne pas faire ça.
Ce sont des thérapies courtes avec le Bouddha. Pas des thérapies longues.
Ça dépend, ça dépend.
Et déjà à l'éveil.
Mais en tout cas, ce que dit le Bouddha, c'est que le passé, n'est pas là. Le passé n'est pas là. Le passé, on peut s'en souvenir. On a des pensées relatives avec le passé. Et ce n'est pas le passé. C'est ce que nous...
C'est notre interprétation.
Ça peut même arriver que quelqu'un nous ait dit quelque chose et puis qu'on l'ait ruminé pendant 10 ans, et puis qu'un jour on va voir cette personne, ouais, tu m'as dit ça, mais non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Ça pourrait arriver comme ça.
Ça existe. Ouais.
Parce que, bah oui, le passé, c'est toujours l'expérience qu'on en a fait, et puis quand on s'en souvient, c'est toujours une pensée. Mais c'est plus l'expérience du passé, le passé n'est pas là. Il serait pas quelque part. C'est. Voilà, quand on y pense, bah voilà, on pense au passé, mais c'est plus le passé. Donc du coup, on ne peut pas trouver la solution dans le passé, du point de vue d'Herma. On ne peut pas le trouver dans le passé parce que le passé n'est pas là. Ou il n'est plus là, mais ça revient au même. S'il était là, on pourrait le localiser et puis aller trouver le... Non, c'est une pensée.
Du passé.
Comment ?
C'est une pensée du passé.
C'est une pensée du passé, et encore. Dire du passé, c'est superflu. Parce que c'est une pensée. Le futur est une pensée, le passé est une pensée. C'est une pensée. Et une pensée, c'est un phénomène du point de vue bouddhiste. C'est un phénomène. Et donc, tout ce qu'on nous invite à observer, c'est que, quel que soit ce qui se passe dans notre esprit, qu'on l'appelle passé, qu'on l'appelle même présent, qu'on l'appelle futur, c'est une pensée. Et une pensée, c'est quoi ? C'est un phénomène. Apparition, disparition. Point. Je dis pas que c'est simple. Mais enfin, pas que c'est facile, mais c'est simple, le dharma. Si on comprend ça, bah, du coup, bah, si on voit la pensée pour ce qu'elle est, il n'y a pas besoin de l'étiqueter comme étant bonne, mauvaise, passé, futur. C'est une pensée, on s'en libère. Tout de suite, sur le champ.
Donc on ne peut pas dire que le présent est une conséquence du passé. Ça bouge tout le temps. À chaque instant, ça bouge. Hein.
Oui, c'est-à-dire que cet instant dépend de l'instant précédent.
Oui, voilà,
pour être ce qu'il est, il y a une cause et conséquence, quoi.
Donc, de cause et conséquence.
Donc, oui, voilà.
Oui, il y a aussi des pensées du passé qui peuvent être incroyablement positives et stimulantes. Si on a, par exemple, un souvenir d'un épisode très joyeux où on s'est réjoui, De quelque chose qui est arrivé à quelqu'un, ça prouve qu'on est encore capable de le faire à nouveau.
Oui.
Ça peut être très stimulant pour le présent, dans un moment un peu difficile.
Ça peut être plaisant.
Ça peut être plaisant, oui. et encourageant, et positif, et bénéfique.
Oui.
Et puis après, c'est passé, on est...
Mais ça reste...
Sur le moment, ça peut être comme un strapontin.
Oui, ah ouais, tout à fait, oui. Après, le but ultime, c'est que...
C'est de garder que des bons souvenirs.
Non, c'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est qu'on voit que même ça, on n'aura plus besoin.
Oui.
Ça, c'est en chemin. Peut-être on a besoin de se rappeler les choses. Voilà, ça fait partie de la méthode. On se porte sur ce qui va bien, sur les portées joyeuses, et puis on évite de
non,
trop
si
s'apesantir.
Quand elles viennent, comme les autres, quand elles viennent par hasard, on ne fait pas un détour pour éviter.
Non, le but c'est pas de... C'est une pensée. C'est une pensée. Bonne, mauvaise, c'est une pensée.
D'accord.
Si on s'agrippe trop à une pensée parce qu'elle est bonne, on crée un attachement. Ça peut être bien, dans une parenthèse donnée, mais au bout du compte, ça reste encore un attachement. On fait la dédicace ?
Oui.
Non, je n'ai pas du tout envie de me jeter sur le buffet. Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.
Merci.